Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 28 janvier 2025. En RDC, des manifestants attaquent les ambassades à Kinshasa en raison du conflit dans l'est du pays. À Goma, de violents combats continuent après l'entrée dans la ville des rebelles du M23. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont célébré aujourd'hui à coups de marche gigantesque leur sortie de la CEDEAO.
C'est une décision politique, sinon en réalité, sur les faits, aucun pays ne peut aller sans l'autre. La CEDEAO, le Mali, c'est la même chose. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les pays de la CEDEAO, nous avons des compatriotes et vice-versa.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, Donald Trump prend un décret pour interdire l'idéologie transgenre dans l'armée. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Direction Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère face à ce qu'ils appellent l'inaction des autorités face à l'agression que subit l'est du pays. Des ambassades de pays occidentaux et celles du Rwanda ont été ciblées par des manifestants. Reportage André Ndambi.
Des manifestations ont éclaté ce mardi matin dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Les habitants indignés par l'offensive persistante du M23 et les silences jugés complices de la communauté internationale sont descendus dans le riz pour exprimer leur colère et réclamer des actions concrètes.
Nous revendiquons les Rwandais qui nous menacent dans notre pays. On se pose des questions, qu'est-ce qu'on avait fait aux Rwandais?
Martin Fayulu a interpellé les responsables religieux à agir pour résoudre la crise, tout en accusant Félix Tshisekedi d'en être responsable et réclamant sa démission à cas d'obstruction. Écoutons Martin Fayulu.
Si M. Félix Tshisekedi persiste à se dresser en obstacle, il sera tenu pour seul responsable de la déchéance de notre nation et devra démissionner.
Le gouvernement condamne fermement tous les actes de vandalisme et de violence qui ont été constatés durant ces manifestations. Écoutons Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias.
Nous sommes en droit d'exprimer notre désapprobation, d'exprimer notre colère. Mais faisons-le pacifiquement.
Plusieurs ambassades à Kinshasa, notamment celles du Rwanda, de la France, de l'Ouganda et des États-Unis, ont été prises d'assaut par des manifestants. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la passivité des ambassades occidentaux face aux événements en cours à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. André Ndambi pour VOA Afrique, Kinshasa.
Merci André. Les affrontements meurtriers se sont poursuivis ce mardi à Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC, dans laquelle les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pénétré dimanche, marquant une nouvelle escalade dans un conflit qui dure depuis 3 décennies. Les habitants de plusieurs quartiers ont signalé plus tôt dans la journée des tirs d'armes légères et de fortes explosions, en particulier près de l'aéroport. Fiston Issé-Mouami, notre correspondant, nous en dit plus.
Justement, la situation de ce mardi 28 janvier 2025 est plus ou moins calme par rapport à la situation d'hier lundi 27 où il y a eu des affrontements. La journée d'hier a été caractérisée par des échanges de tirs à plein ville de Goma. Et en tout cas, ce mardi, tout est calme. Il n'y a pas eu des affrontements. La ville est calme. On a vu, par contre, certains militaires de l'armée rwandaise, on suppose qu'ils sont avec les M23, bien sûr, qui se sont entretenus avec la population, une tranche de la population du quartier Kessero, dans la commune de Goma, pour leur demander à vaquer à leurs occupations et de se rendre au marché, chercher la nourriture. La nourriture, bien sûr, il fallait que la population cherche de l'eau également. Cependant, lors de cet échange avec certains cadres militaires de cette armée rwandaise ou du M23, ont donné des promesses à la population du rétablissement du courant électrique, bien sûr du rétablissement également de l'eau, puisque l'eau ne coule plus au robinet depuis qu'il n'y a pas le courant électrique dans la ville de Goma. Et il faut retenir également que dans la soirée d'aujourd'hui, on a vu certains conducteurs de motos ou certains motards qui sont venus de Saké dans le territoire de Massissi. Selon les témoignages, ces conducteurs ont certifié que la route est maintenant opérationnelle entre Goma et Saké.
L'Afrique du Sud a annoncé que 4 de ses soldats participant à la mission de maintien de la paix de l'ONU avaient été tués au cours des combats. En tout, 9 casques bleus sud-africains ont été tués au cours de la semaine écoulée. Le président Cyril Ramaphosa s'est entretenu au téléphone avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité d'un cessez-le-feu, selon la présidence sud-africaine. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu ce lundi au téléphone avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a affirmé le soutien de Washington à l'intégrité territoriale de la RDC, a fait savoir le département d'État. L'Union africaine a exhorté le groupe armé M23 à déposer les armes après une intensification des combats contre l'armée congolaise à Goma. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné les violences et plaidé pour une résolution pacifique du conflit. Dans le reste de l'actualité en Afrique, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui au Niger et au Burkina Faso pour soutenir le retrait de leur pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui devient effective demain mercredi. Le point avec Rosine Monezero.
À Niamey, plusieurs milliers de manifestants, avec un peloton de tête, des membres du régime militaire, se sont rassemblés à la place Toumo, puis ont marché vers la place de la Concertation devant l'Assemblée nationale à quelques kilomètres de là. Même démonstration à Ouagadougou où des milliers de personnes se sont rassemblées à la place de la Nation, dont le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo et des membres du gouvernement. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au président français Emmanuel Macron, mais aussi à certains chefs d'État de la région avec lesquels le Niger entretient des relations tendues, comme le Bénin, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Des manifestations étaient également prévues au Mali. Le 29 janvier 2024, au lendemain de leur annonce, les trois pays avaient formellement notifié à la CEDEAO leur volonté de retrait immédiat. Les textes de l'organisation ouest-africaine imposaient cependant un délai d'un an pour qu'il soit effectif. Les pays de l'AES vont mettre en circulation dès mercredi leur propre passeport commun et ont annoncé pour bientôt une armée unifiée de 5000 hommes pour combattre les djihadistes.
Au Cameroun, le président Paul Biya a reçu à Yaoundé un rapport rédigé par une commission de chercheurs français et camerounais portant sur le rôle de la France pendant la colonisation et après l'indépendance du Cameroun. Le rapport qui couvre la période de 1945 à 1971 propose une analyse du rôle de la France et cherche à briser un tabou pour permettre un renouveau des relations entre les deux pays. Le rapport de 1000 pages sera accessible en ligne gratuitement à partir d'aujourd'hui.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a signé un décret pour bannir de l'armée américaine ce qu'il a qualifié d'idéologie transgenre. Le 20 janvier, jour de son investiture, M. Trump a affirmé que les États-Unis ne reconnaîtraient plus que deux sexes, masculin et féminin, définis à la naissance. Eric Manirakiza.
La mesure stipule que l'adoption d'une identité de genre incompatible avec le sexe d'un individu contredit l'engagement d'un soldat envers un mode de vie honorable, véridique et discipliné, même dans la vie professionnelle. Donald Trump a pris un autre décret supprimant les politiques de recrutement qui encourageaient la diversité dans les rangs militaires. Selon le président Trump, les forces armées ont été affectées par une idéologie de genre radicale pour apaiser les militants. De nombreux problèmes de santé mentale et physique sont incompatibles avec le service actif, précise ce décret. Le nombre de personnes transgenres dans l'armée américaine serait de quelques 15 000 sur environ 2 millions de militaires, d'après les estimations. Selon le Williams Institute de l'Université de Californie, environ 1,6 million de personnes de plus de 13 ans, dont 300 000 adolescents, s'identifient comme transgenres aux États-Unis. D'après le site Human Rights Campaign, 26 États américains interdisent des thérapies de transition pour les mineurs, une interdiction que Donald Trump a promis d'élargir au reste des États-Unis en supprimant toute aide fédérale. Environ la moitié des États américains interdisent l'accès des femmes transgenres aux compétitions sportives scolaires féminines, une mesure que Donald Trump veut également faire appliquer au niveau fédéral.
L'Égypte a démenti des informations rapportant un entretien téléphonique entre le président Abdel Fattah al-Sissi et Donald Trump au sujet de la situation dans la bande de Gaza. M. Trump avait proposé un plan controversé visant à déplacer les habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, suscitant de vives critiques dans le monde arabe. Bien qu'il ait mentionné une conversation avec le roi de Jordanie et prévu un échange avec Sissi, aucune communication officielle entre Trump et Sissi n'a été confirmée. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monizero.
Les dirigeants africains et les donateurs se sont engagés mardi à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes supplémentaires en 5 ans, en s'appuyant sur les progrès considérables réalisés dans le domaine de la technologie solaire hors réseau pour atteindre cet objectif. Ils se réunissent depuis lundi en Tanzanie à l'occasion du sommet africain de l'énergie, organisé conjointement par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. L'Agence sud-africaine des statistiques a mis à jour son panier d'inflation des consommateurs pour la première fois depuis 2022, incluant des articles tels que le vin rosé, les friteuses et les services de streaming pour refléter les changements dans les habitudes de dépenses. L'inflation à la consommation se situe actuellement dans le bas de la fourchette cible de la Banque centrale et une nouvelle réduction des taux est attendue cette semaine. Au Zimbabwe, le taux d'inflation a fortement augmenté en janvier. En dollars, l'inflation s'est accélérée pour atteindre 14,6% en glissement annuel contre 2,5% en décembre. En monnaie locale, l'inflation a atteint 10,5% d'un mois sur l'autre en janvier contre 3,7% en décembre, selon les données de l'Agence de statistiques publiées mardi.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Retour sur le tirage au sort hier de la CAN 2025. Les différents groupes ont été constitués à Rabat au Maroc.
Oui, les 24 équipes qualifiées ont été réparties en 6 groupes de 4. Sur papier, Côte d'Ivoire-Cameroun reste la plus belle affiche du premier tour. Le match d'ouverture va opposer l'hôte marocain au Comores le 21 décembre à Rabat. On fait le point sur place à Rabat avec notre consultant sportif Amine Birouk.
Le tirage au sort de la CAN 2025 a été plutôt clément pour le pays organisateur. En effet, le Maroc devra en découdre au premier tour avec les Aigles du Mali, la Zambie, un adversaire qu'il retrouvera pour la quatrième fois en moins de 22 mois, et les Comores qui disputeront la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Les Lions de l'Atlas devront toutefois rester vigilants face à des rivaux qui ne nourriront aucun complexe. Idem pour le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, obligée de sortir le grand jeu devant un Cameroun à la recherche de son glorieux passé, d'un Gabon capable du meilleur comme du pire ou du petit poussé mozambicain. Mais a priori, les éléphants, pour peu qu'ils hissent leur niveau de jeu, sont au-dessus du lot. En revanche, l'Égypte sera en grand danger dans le supposé groupe de la mort face aux défis de l'Afrique du Sud, de l'Angola et un degré moindre du Zimbabwe. Les autres ténors pourront monter en puissance lors du premier tour, notamment le Nigeria opposé à la Tunisie, à la Tanzanie ou à l'Ouganda. Au Sénégal, qui hormis le danger représenté par la RDC, peut voir venir devant le Bénin ou le Botswana. Ou pour le binôme Algérie-Burkina Faso, qui semble un cran au-dessus de la Guinée équatoriale et du Soudan. Toutefois, il reste 11 longs mois pour les ténors, les troubles faites et les outsiders pour bien préparer ce rendez-vous marocain, marquer leur territoire et afficher leurs ambitions. En leur rappelant bien sûr qu'ils seront 24 au départ et que c'est la sélection qui saura faire preuve de solidité et de résilience pourra brandir ce précieux trophée le dimanche 18 janvier 2026 à Rabat. Depuis la capitale du Maroc, Rabat justement, c'est Amine Birouk pour la VO Afrique.
Du basketball pour finir, ici en NBA, Houston a boxé en poids lourd.
Après avoir gagné 2 fois contre le leader de l'Est Cleveland au Texas mercredi, puis dans l'Ohio samedi, les Rockets ont réussi un nouveau gros coup en s'imposant sur le parquet du champion Boston, 114 à 112. L'autre choc de la soirée entre les New York Knicks, 3e à l'Est, et les Memphis Grizzlies, 3e à l'Ouest, a été remporté par les Knicks, 143 à 106. De son côté, Sacramento a battu Brooklyn 110 à 96. Le pivot des Los Angeles Lakers, Anthony Davis, a inscrit 42 points et capté 23 rebonds pour mener les siens au succès contre les Charlotte Hornets 112 à 107. Denver est tombé à Chicago sur le parquet des Bulls 129 à 121. Gianni Antetokounmpo, coutumier du fait, a réussi un poster dunk magique lors du succès des Milwaukee Bucks contre le Utah Jazz 125-110.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Quelle est la situation humanitaire à Goma où des combats sporadiques ont continué aujourd'hui après la chute hier de cette ville, capitale de la province du Nord Kivu, aux mains de l'armée rwandaise et des rebelles du M23 qu'elle soutient. Elie Sango a joint à Dakar la responsable des relations publiques du CICR pour l'Afrique francophone, Eleonore Assomani.
La situation humanitaire actuellement à Goma est plutôt dévastatrice. Nous avons des équipes qui travaillent et qui soutiennent l'hôpital CBCA Endosho Goma, où nous avons des équipes de chirurgiens qui travaillent nuit au jour et qui accueille des blessés, souvent des blessés par balle, des blessés par explosion. Depuis le début de l'année, donc depuis début janvier, donc ça fait 3 semaines seulement, nous avons reçu plus de 720 blessés dans cet hôpital-là avec seulement 100 cas, avec déjà 148 blessés pour la journée d'hier seulement.
Comment faites-vous votre travail aujourd'hui? Est-ce que la sécurité vous permet de circuler? Il semble qu'il y a beaucoup de corps sur les rues encore. Est-ce que c'est facile pour vous, avec des combats actuels, d'aller apporter les secours ou l'assistance aux personnes?
On a encore, en effet, donc la situation a été très compliquée, notamment les jours passés avec des combats intenses dans le milieu urbain. Nos équipes à l'hôpital ont pu continuer à travailler, les blessés ont continué à effluer. Le reste des équipes qui ne sont pas des équipes médicales, elles, étaient à l'abri dans nos bureaux où nous avons aussi un abri qui nous protège des tirs. Comme tout le monde, ils sont restés pour les autres à la maison. La situation n'est pas simple. Vous avez mentionné en effet le fait que la ville soit dans les combats. Ça fait que, par exemple, un de nos collègues a reçu un obus dans sa parcelle. Nous-mêmes, encore hier, on a aussi eu quelques tirs très très près de notre bureau, mais on arrive quand même à continuer à travailler. Depuis quelques heures, il y a une accalmie et on profite de ça pour pouvoir se déplacer. On voit que les gens petit à petit sont en train de sortir timidement pour essayer de trouver un peu de nourriture, un petit peu de gaz, un peu d'eau potable pour pouvoir se réapprovisionner en cas. On a vu certaines boutiques trouver petit à petit aussi quelque chose à manger et l'équipe en a aussi profité pour faire de même et pour continuer à donner l'assistance humanitaire qui est nécessaire.
Un des véhicules de la MONUC avait été pris à partie par des bombes. C'est justement pour cette raison qu'on demande comment vous faites votre travail. Est-ce que vous êtes sécurisé par la MONUSCO ou par les soldats, je ne sais pas, de l'armée, maintenant que l'armée congolaise n'est pas là?
En tant qu'organisation humanitaire et par notre mandat, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a dans son mandat ce dialogue avec les parties au conflit. Et ça fait partie de notre travail d'être en dialogue constant avec toutes les parties au conflit. C'est ce qui nous permet de continuer à faire notre travail de manière sécurisée.
Qu'en est-il des camps de déplacés? Parce qu'il y avait déjà des millions de déplacés dans et autour de Goma.
On a en effet entendu qu'il y a eu des déplacements massifs et en effet les gens essaient de prendre abri et de se réfugier là où ils peuvent, là où ils trouvent.
Eleonore Assomani, responsable des relations publiques du Comité international de la Croix-Rouge.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Dans 24 heures, le Mali ne sera plus membre de la CEDEAO, dont il fut membre fondateur en 1975. Les dernières sanctions contre le Mali à la suite du coup d'État et les divergences de points de vue ont rendu difficile la cohabitation. Comment les Maliens accueillent cette décision de leurs autorités? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Au Centre international de conférence de Bamako, ils sont plusieurs centaines de personnes à répondre à l'appel de différentes associations de la société civile pour venir célébrer l'Alliance des États du Sahel à 24 heures de la sortie effective du Mali de la CEDEAO. Bourema Somboro, étudiant à la Faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, l'un des manifestants, pense que cette sortie du Mali de la CEDEAO n'aura pas de conséquences car c'est une décision mûrement réfléchie par les autorités?
Non, moi personnellement, j'ai pas peur de cette décision parce que nos autorités maliennes ont quand même des précautions à prendre. Et cette décision ne se fait pas du tout hasardement. Donc, je suis convaincu que jusqu'à là, nous allons s'en sortir. Même si ce n'est pas la CEDEAO, nous sommes compétents.
Le calme de Bourema Somboro tranche d'avec les inquiétudes du journaliste Ende Ombotimbe. Directeur de publication de l'hebdomadaire Le Bercail, il estime que le divorce n'est pas la solution et qu'une cohabitation entre AES et CEDEAO était bien possible. Ende Ombotimbe.
Pour moi, comme c'est de l'eau versée, sinon on pouvait rester dans la CEDEAO, même créer l'AES. Ça peut se faire, ça pouvait se faire. Mais bon, comme ils ont décidé ainsi, on verra la suite. Sinon, les gens quand même sont en tout cas divisés entre inquiétude et opportunité.
Malgré la décision du Mali de sortir de la CEDEAO, il faut, selon Ende Ombotimbe, trouver très vite des solutions pour permettre aux populations de circuler librement compte tenu du nombre de ressortissants maliens qui se trouvent dans certains pays de la CEDEAO, notamment en Côte d'Ivoire.
C'est une décision politique. Sinon, en réalité, sur les faits, aucun pays ne peut aller sans l'autre. La CEDEAO, le Mali, c'est la même chose. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les pays et la CEDEAO, nous avons des compatriotes et vice-versa.
Le passeport AES entre en vigueur le 29 janvier, date de la sortie officielle du Mali, du Niger et du Burkina de la CEDEAO. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
L'irruption du chinois DeepSeek a ébranlé les géants de la Silicon Valley. Aux États-Unis, ce start-up a stupéfié les experts par ses performances et sa rentabilité basée sur des coûts de développement très limités. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris l'économiste Rémi Bourgeot, chercheur à l'IRIS et expert dans les nouvelles technologies.
Le succès de cette initiative chinoise remet en cause un certain nombre d'attentes vis-à-vis du secteur technologique aux États-Unis dans l'intelligence artificielle, où beaucoup pensaient qu'il fallait investir des montants considérables et utiliser des montants de données extraordinairement élevés pour pouvoir produire des modèles d'intelligence artificielle à la hauteur de ce que fait OpenAI. Et DeepSeek en Chine est parvenu à obtenir des résultats comparables, voire meilleurs, avec des moyens extrêmement limités, avec quelques millions de dollars, en réutilisant le résultat de modèle, en entraînant son propre modèle grâce à l'utilisation de modèles existants et à une ingénierie sophistiquée, très économe, à la fois en argent, mais plus précisément en données et en capacité de calcul.
Alors, c'est un produit qui vient d'ébranler l'univers américain et occidental en général. Quel est son impact sur les pays en voie de développement comme les pays africains?
Pour le reste du monde, c'est une excellente nouvelle puisque ça montre qu'on peut développer des choses extrêmement intéressantes avec des moyens incroyablement plus limités que ceux de la Silicon Valley. Donc là, on parle de quelques millions de dollars avec les compétences requises, mais on peut vraiment faire des choses extrêmement avancées grâce notamment à cet environnement open source. Et les compétences requises sont tout à fait accessibles aux ingénieurs, aux mathématiciens de très nombreux pays qui sont formés dans ces domaines avec des compétences déjà existantes. Donc ça bouleverse complètement la carte à venir de l'intelligence artificielle. Il y aura toujours des géants, des mastodontes américains, mais le reste du monde peut tout à fait s'investir à faire des choses remarquables dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, en Europe, en France, on avait vu cette entreprise, Mistral AI, qui a développé son propre modèle en suivant une voie différente de DeepSeek, mais aussi dans l'environnement open source à la base, et qui a construit, à l'époque, il y a un an environ, une trentaine d'employés seulement, a construit un modèle comparable à celui d'OpenAI. Mais à cette époque, ça n'était pas aussi flagrant qu'avec l'émergence de DeepSeek, et ça n'était pas dans le contexte d'une telle rivalité géopolitique comme celle entre la Chine et les États-Unis. Donc là, c'est aussi de ça qu'on parle évidemment aujourd'hui, et beaucoup d'analystes américains sont stupéfaits, beaucoup de décideurs économiques comme politiques sont très inquiets des répercussions.
L'économiste Rémi Bourgeot, chercheur à l'IRIS et expert dans les nouvelles technologies. Une poignée de survivants se sont réunis hier aux côtés de leaders du monde entier sur le site du camp de la mort nazie d'Auschwitz en Pologne à l'occasion du 80e anniversaire de sa libération pendant la Seconde Guerre mondiale, une date marquée comme la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Reportage de Henri Erduel, le récit Jacques Aristide.
Devant la tristement célèbre porte de la mort par laquelle des millions de juifs et d'autres prisonniers ont été conduits à leur dernier soupir, environ 50 survivants sont retournés lundi dans le camp nazi en présence de dirigeants mondiaux pour commémorer le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Tova Friedman avait 2 ans lorsqu'elle a été emmenée à Auschwitz.
We were victims. In a moral vacuum.
Nous étions des victimes dans un vide moral. Mais aujourd'hui, nous avons une obligation, non seulement celle de nous souvenir, ce qui est extrêmement important, mais aussi celle d'alerter et d'enseigner que la haine ne fait qu'engendrer davantage de haine.
Le 27 janvier 1945, les troupes de l'armée rouge ont libéré Auschwitz, le plus grand des 6 camps d'extermination nazie. Ce qu'elles ont découvert continue de hanter l'humanité. Une extermination humaine à échelle industrielle. Un régime déterminé à anéantir toute la population juive. Un génocide mené sur 4 ans et demi, planifié. Exécuté avec une précision méticuleuse, ce que les nazis appelaient leur solution finale. Environ 1,1 million de personnes ont été tuées à Auschwitz, dont 1 million de juifs, mais aussi des Polonais, des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et des personnes d'autres nationalités. Les victimes étaient dénudées et entassées dans des chambres à gaz. D'autres étaient abattues, battues à mort ou mouraient de maladies, de faim et d'exposition aux éléments. Les corps étaient brûlés ou enterrés dans des fosses communes. Janina Iwanska a été déportée à Auschwitz depuis un autre camp de transit polonais en août 1944 à l'âge de 14 ans.
Dès que je suis descendue du wagon, j'ai immédiatement été frappée par l'odeur, celle que je connaissais de Treblinka, l'odeur des corps en train de brûler.
L'Allemagne a aujourd'hui adopté une culture du souvenir officielle, un devoir de responsabilité face à l'Holocauste. Le chancelier allemand Olaf Scholz.
Nous perpétuons le souvenir de cette rupture civilisationnelle commise par les Allemands pendant l'Holocauste et nous le transmettons à chaque nouvelle génération dans notre pays. Encore et encore, notre responsabilité ne prendra jamais fin.
Mais cet anniversaire survient dans un contexte de crainte grandissante face à la montée de l'extrême droite en Allemagne et au-delà, une inquiétude exprimée par de nombreux d'Auschwitz. Léon Wintraub a été déporté à Auschwitz en 1944 et vit aujourd'hui en Suède.
Prenons très au sérieux les discours des ennemis de la démocratie. Ils cherchent généralement à mettre en œuvre les slogans qu'ils prônent.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas assisté aux commémorations à Auschwitz. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés commis lors de la guerre d'Israël contre le Hamas palestinien, ce qu'il conteste. L'État hébreu a été représenté par son ministre de l'Éducation Yoav Kish. Des proches des dizaines d'otages israéliens toujours détenus par le Hamas à Gaza se sont également rendus en Pologne, tandis que des survivants de l'attaque du 7 octobre 2023 se sont joints aux survivants de l'Holocauste lors des commémorations en Israël.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, la mise en onde Joselle Morissin. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.